Copilote pour l'été.
Mardi 9 août, 15h55, vous êtes à l'écoute de Copilote pour l'été sur les ondes de Rouge. Ici Michel Charrette en compagnie de ma belle amie Jessica Barker. Comment ça va?
Ça va bien, toi? Est-ce que tu t'es remis de tes émotions?
Eh boy, ça a été quelque chose, moi, de dire. Une grosse journée en émotions.
Qu'est-ce qui s'est passé hier pour faire un petit
résumé de tout ça? Ben écoute, on a reçu Monique Néron en début d'été pour nous, pour passer la semaine comme François la passe avec nous cette semaine. Et on avait parlé des moments, des gens importants dans notre vie, puis j'avais raconté l'histoire...
Des gens qui avaient changé.
Qui avaient changé notre vie. J'avais raconté l'histoire d'une prof au cégep, et on a finalement réussi à la retrouver. Claire Portelance, qui m'avait enseigné la politique au cégep de Maisonneuve, qui m'avait fait passer un cours pour que je puisse obtenir mon diplôme et ainsi pouvoir aller au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Mon seul plan dans la vie, c'était...
Ton plan A.
C'était mon plan A. Alors, on a réussi à trouver cette fille-là, et Monique est venue me présenter ça en ondes. Et là, j'ai perdu tous mes moyens.
C'était une surprise.
C'était extraordinaire. Bien, merci, mon ami, aussi, parce que tu as fait partie
de
toute cette organisation-là. Fait que ça a été un moment extraordinaire. Vraiment, j'étais encore un peu sous mon nuage.
Ah, oh, écoute, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, à 16h, dans 5 minutes, ça va être sur l'ensemble des pages Facebook de Rouge à travers le Québec, le vidéo de ce moment, de cette surprise. Un cadeau de Monique Néron pour toi. C'était vraiment, vraiment touchant. Tout le monde braillait dans le studio.
Oui.
Un beau moment. Alors, chaque semaine, on a la chance d'être accompagné pour plusieurs émissions. Cette semaine, c'est nul autre que François Chénier qui est avec nous. Salut François, est-ce que t'es en forme?
Allô Jess, allô Michou.
Mon Dieu!
Oui, oui. La gorge, on va partir ça.
Comment, un peu de torque?
Non, mais j'étais là hier. Puis,
c'était touchant.
C'est mes deux amis, là, puis ils étaient... je les ai pas vus souvent comme ça. Ah, tu sais, ouais. Michel, perdre le contrôle, c'est pas quelque chose qui apprécie.
Totalement, je savais pas ce qui se passait. C'est comme un... Tu sais, des fois, tu as l'expression, tu reçois un coup de batte de baseball dans la face, mais ça a été ça. Ça a été vraiment, j'ai été flabbergasté.
C'était plus une caresse qu'un batte de baseball.
Non, mais dans le sens que j'étais sonné, j'étais...
Incroyable.
Beaucoup de travail pour une belle caresse, Jess, disons-le.
Oui, absolument. Ouais. C'est une belle caresse que je prends et que je vais chérir pour un méchant bout. Puis la radio, comment tu trouves ça, Dan?
Très agréable. Il fait un peu froid dans le studio.
Parce que nous, on a chaud. Nous
autres,
on a
chaud. Mais oui. Mais moi aussi, je vais l'enlever. Moi, je suis en andropause.
Moi aussi, je suis en andropause. Bark en ménopause. L'automéno, comment? Les points forts, les points faibles, à date?
C'est pas mal tout du fort, je dirais. Oui, oui. Les points faibles, c'est pas mal moins, là, mais ça va se placer.
Je suis content que c'est toi qui en parle.
C'est ça.
Chaque semaine, notre invité prend un rôle différent dans la dynamique. Bon, alors, Gilda Roy disait des niaiseries. Monique Néron nous a amené du contenu. Guylaine Tremblay, des côtes d'écoute. Puis Simon Boulris, monter la compétition d'un cran dans les quiz. Toi, tu te vois comment dans le trio? T'es-tu le modérateur?
Dans votre trio?
Oui, dans le trio qu'on crée pour la semaine.
Ben, je pense peut-être modérateur,
ben
effectivement,
oui.
Parce que vous êtes quand même deux pôles.
Je sais pas.
Non, mais c'est pour ça c'est la seule façon qu'on peut être amis avec Michel, c'est si on est diamétralement opposés, je pense. Fait que ça, vous avez ça. Moi, je pensais honnêtement que j'étais ici pour des raisons esthétiques, mais c'est bizarre parce qu'on est en radio. Fait que là...
Je te confirme que t'es pas là pour des raisons esthétiques.
Ah, OK, excusez.
Non, mais tu sais, je t'ai dit que je t'en parlerai pas de tes patarafes d'en face.
Bon.
Et voilà, c'est fait.
Écoute, mon beau chum, on a appris des bonnes sur toi hier, entre autres que...
Tu n'admires pas l'intelligence de Michel.
C'est super, je te remercie.
Je me souviens pas dans quel...
c'est ça, moi je m'en souviens. Si c'est écrit, c'est parce qu'on s'en souvient.
Oui, oui, ça c'est... Ah oui, je m'en souviens, oui.
Ton désir d'être éleveur de chèvres, c'est directement lié à leur manière de sauter.
Ben, à peu près directement. Ils ont toujours l'air de bonne humeur. Qui veut pas ça dans sa vie?
Ouais, je te comprends. Ben, tu dis que t'as pas perdu ta virginité avec Ginette Renault,
non.
Mais plutôt en face de chez elle.
Oui, oui.
C'est tout, hein?
Non, j'ai un autre moment à ajouter par rapport à ça. J'étais triste de pas l'avoir dit hier. Je suis allé, je vais parler de mon père plus tard dans l'émission. Vous allez voir que des fois, je vais voir mon père puis je prends des marches avec. L'autre fois, je l'ai amené là puis j'y ai dit, papa, c'est là que j'ai perdu ma virginité.
Tu as montré.
Puis là, il a dit, je vais aller voir. Là, on s'est approché un peu plus. Puis, tu sais, je vous avais parlé hier de la grosse épinette avec ses branches. On est allé voir ça avec mon père. C'était un beau moment.
Je comprends. C'est super.
Ouais.
J'adore ce partage.
Ouais,
votre pièce, Michel et François, à l'Institut, fonctionne vraiment bien, mieux que Saint-Forien.
Ben, visiblement, je suis ici, plus de moustache.
Ça a bien été.
Non, mais
on va l'expliquer pourquoi, François, que tard, vous êtes en pause forcée.
Oui.
Et finalement, Catherine, ta blonde, fait dire que ce serait le fun de te voir plus souvent.
Bon, oui, ça, c'était hier, c'est ça. On s'est vu, c'est réglé.
Bon, excellent. Vous avez fait un meeting de famille?
Oui.
Bon, l'itinéraire est fait, tout?
Oui, oui, oui. Excellent, c'est parfait. Super, ouais,
bon, ça, c'est Alice, Catherine, c'est fait. Non. Écoute, on va en apprendre encore des bonnes histoires aujourd'hui. Je suis sûr de ça. Vous ne voulez pas manquer ça. Restez à l'écoute.
Dans les deux prochaines heures à l'émission, on vous parle de trucs pour bien vous réveiller de bonne humeur le matin. Hein,
oui.
Michel?
Ben oui, ben oui. On vous parle aussi de nos talents cachés.
Notre collaboratrice Claudine Prévost vient nous parler de l'histoire d'une chanson que vous connaissez bien.
Demain marquera les 25 ans de la tragédie où Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon ont perdu la vie. On va parler d'événements marquants dans notre vie. Parce que ça, ça a été un événement marquant pour... tu sais, genre d'histoire où... Hey, t'étais où quand ça c'était? Oui.
Exactement.
On va se parler de ça un petit peu aussi.
François nous fait un sujet cette semaine. Tu vas nous parler de quoi?
Je vais parler un peu de culpabilité. Ah. À quel point ça peut affecter notre journée sans qu'on s'en rende compte.
Hey, tabarouette tellement. Finalement, on se fait un quiz pour en apprendre un peu plus sur les saints. Genre Saint-Constant. Saint-Constant. Je recommence. Finalement, on se fait un quiz pour en apprendre un peu plus sur les saints, genre Saint-Constant, pas ceux dans le soutien-gorge.
Parfait.
Les saints qui nous
J'aime entourent. La précision.
Ben oui, voilà.
Marie-Mé s'est blessée sur scène récemment. Dans les prochaines minutes, on parle des pires histoires de blessures sur des scènes, sur des plateaux de tournage. On en a pas mal à vous raconter, à nous trois.
Hey, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Marie-Mé, notre chanteuse préférée, s'est blessée un genou sur scène en fin de semaine. Rien de grave, inquiétez-vous pas. Mais ça nous a donné l'idée de parler de blessures qui arrivent durant des shows ou encore sur des plateaux de tournage. Puis, tu sais, the show must go on, il faut continuer, on n'a pas le choix. Fait que moi, j'en ai une coupe à raconter.
T'as eu beaucoup d'accidents.
Ben, moi, François, on a joué dans un show. Il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi parce que vous êtes trop jeune, mais ça s'appelait Radio Enfer. Puis, on jouait des bons amis là-dedans. Puis, écoute, mon personnage. Avait souvent des cascades à faire, rentrer dans des cases, tomber à terre.
Il était maladroit.
Il était maladroit, mais comment je te dirais bien ça? Souvent, c'est qu'on me demandait de faire ça pour retirer un peu parce qu'on était trop court dans l'émission.
OK.
Fait que là, Louis Saïa, notre metteur en scène...
Il était comme, ouais, va t'en faire jouer.
Là, pendant 40 secondes, fais des niaiseries avant de faire ton dialogue parce qu'on est trop court. Fait que souvent, ce mandat-là était associé à moi ou à Robin Aubert qui faisait okay. Alors, des fois, je partais, mais évidemment... Tout pour le rire, puis intense que je suis, je rentrais dans des cases. Écoute, je me suis fendu les genoux, je me suis déjà fendu la tête. J'avais des bleus partout. Une des bonnes, c'est à un moment donné, je rentre dans le local de la radio, puis il y a comme un vélo par terre, et je décide de m'enfarger dans le vélo. Mais, comme je vous le dis, vous connaissez un peu l'intensité que j'ai décidé que j'en plantais une solide. Mais écoute, je me suis tellement... Écoute, la scène finie, je saigne du tibia, j'ai le genou fini. Ensuite, il y en a un autre aussi à Chamonix, les Boys 2. Je sais pas si vous vous souvenez des Boys 2 à Chamonix. À un moment donné, il y a comme l'organisateur du tournoi qui arrive en voiture. Puis là, j'ai peur. Puis là, je rentre dans des tables dans le bistrot, puis je tombe.
On suit une terrasse à l'extérieur.
Exactement.
Pour ceux qui ne s'en souviennent pas.
On l'a fait deux fois. Mais la première fois, j'ai comme placé mes affaires. Mais l'accessoiriste est passé après moi. Fait qu'il a rajouté des cendriers, mais en vitre.
Oh
avec
my
des
God.
Verres. Et il a pris une table, puis il l'a coté comme sur un poteau. Alors, moi, là... Je suis pas un cascadeur dans la vie, mais dans ma tête, cette journée-là, j'étais Rémi Julienne, j'étais le top. Écoute, quand le char est arrivé, évidemment, la caméra, je suis tellement rentré dans une table, évidemment, des tables ont tombé. Quand je suis rentré dans une table qui était collée sur le poteau, j'ai perdu le souffle, j'ai tombé, le cendrier a tombé, il a cassé.
Mille morceaux.
Mille morceaux. J'écoute, j'avais l'avant-bras ouvert à grandeur. Mais là, il faut la refaire. Les maquilleuses capotaient vite. Pas un plaster en français, c'est quoi?
Un diachylon.
Un pansement.
Mis ça là-dessus, du maquillage, tout. Là, Thomas, tu es correct? Oui, je suis correct. On la refait, Et la deuxième fois, c'est celle qu'on voit à l'écran. Écoute, j'ai dit, je peux pas en donner moins que j'en ai donné la première fois. Écoute, je me suis donné, mais j'ai placé les affaires en conséquence. J'ai fait enlever les cendriers et j'ai tassé la table du bureau. Et là, écoute, même moi, ça me fait rire encore. J'étais tellement content de ce shot-là que quand je la revois, j'ai ri encore, mais je m'étais vraiment donné pour cette scène-là. Puis Ladies Night, encore un show que j'ai fait avec mon chum Frank. Je me suis cassé deux côtes parce que j'ai fait un mouvement pour faire rire mes camarades.
Mais lequel?
Mais le cave.
Mais qu'est-ce que t'as fait?
Ben, à un moment donné, je suis comme pogné dans un côte de cuir. Je suis posé de rester debout.
Oui.
Je me dis, je vais tomber sur le côté. Je vais
faire tomber
rire. À ce moment-là, je pèse à peu près 400. Mesure 5 pieds 2. Je suis assez haut. Mais là, 400 livres qui tombent sur une scène.
Écoute,
là, je les ai sentis mes côtes cassées. Puis là, je suis resté à terre.
Mais t'as continué le show.
Le show must go.
Puis nous autres, on est crampés, on est ceux qui niaisent.
Écoute, j'ai plus rien, je suis pas capable de me lever. Écoute, à l'entraque, de la glace, puis tout. Et les 3-4 shows qui ont suivi, j'étais obligé de jouer avec un corset pour me serrer. Ça a été l'horreur.
Oh my God!
Fait que ça, c'est juste une petite parcelle de mes blessures de tournage.
T'as beaucoup d'aventures de blessures de tournage.
Toi, j'imagine, c'est sur Les Intrépides, t'as dit de péter à gueule
une
fois.
Les Intrépides, une émission que vous connaissez sûrement pas parce que vous êtes trop jeune, me dire comme toi. Mais je conduisais un scooter. Et à l'époque, moi, là, écoute, je sais pas pourquoi, je comprends pas comment ça marche, des scooters. C'est pas ma force. Puis là, je suis à Paris, tu sais, j'ai 13 ans, je suis énervée. Les rues sont pas vraiment fermées. Non. C'est une autre époque, là, on s'entend-tu? Puis ils veulent tout le temps qu'on fasse des arrivées spectaculaires. Mais moi, j'ai pas ça en moi, là, c'est pas naturel.
Hey, t'es pas Guillaume Lemaitre-Vierge.
Je passe par-dessus le trottoir, je me pète la gueule. Je tombe le scooter sur moi, vraiment plusieurs fois. Mais la pire histoire, c'est que dans la suite des Intrépides, on est rendu on tourne en Hongrie. Puis là, ils veulent que je fasse un dérapage. J'y regarde, je suis comme, j'haïs ça, arrêtez de me demander ça. Non, ça va être cool. OK. Je vous le dis, je vous le fais une fois, là, mais c'est pas ma force. Hey, là, dans de la garnotte, mais de la tout petite garnotte.
La poussière de pierre, genre.
Là. Et là, je pars, je lâche le compte, le cul part, je tombe, le scooter sur moi et j'ai 600 roches dans ma main. Mais 600 roches! Et là, je pleure ma vie, puis là, arrête le tournage.
Puis là, t'as quel âge, là?
J'ai 16 ans. On part à l'hôpital, à Budapest, et là, je me rappellerai toujours la fille qui m'enlève les roches, une après les autres, un peu en dessous de la peau, un peu... Écoute, c'était dégueulasse, ça a été vraiment épique, et j'ai un traumatisme depuis de scooter. Je peux pas rembarquer là-dessus, j'en vois, j'ai peur. Fait comprends. Que non, ça a été mes grandes aventures d'intrépide. J'haïs les scooters.
Puis toi, Chénié?
Moi, ce que j'en reviens pas dans ça, c'est le manque de responsabilité des dirigeants. Je veux dire, sacrifice.
Moi, c'est la même chose.
Oui, j'avais un casque, mais absurde, qui n'était pas un casque parce qu'ils trouvaient ça lettre. C'était full dangereux.
Même affaire pour moi. Moi, j'ai peut-être 20 ans, je tourne dans un film. Premier film de Michel Charette, je pense. Embrasse-moi, c'est pour la vie.
Je pense que c'est ma première gig.
C'est la première gig. Tu avais deux lignes.
Je dis rien. Je faisais une plante verte dans un coin.
C'est ça. Anyway, fait que moi, je joue là-dedans. J'ai un gros rôle là-dedans. Puis j'ai une scène en patin en roue alignée. Ils me disent, pars d'en haut dans le parc Jeanne-Mance. Je peux pas breaker, man. On va te défoncer les chars en arrivant en bas. Il dit, non. Il dit, mets tes bras de même en croix, tu sais. Il dit, mets tes bras en croix, on va t'arrêter. Tu vois, ça, c'est un autre exemple du manque de responsabilité. On dirait qu'il n'y a pas d'adultes sur ces plateaux-là. Tu sais. Ça a fini que je rentrais tellement vite. Vous savez, le principe d'une masse en mouvement.
Oui.
Tu sais, s'il y a quelqu'un pour m'arrêter, ben c'est lui qui va continuer. Puis il s'appelait François Dupéry. C'était le meilleur chef.
Je le connais.
Ben oui. Tu sais, c'était le meilleur chef opérateur du cinéma au Québec.
Oui.
Lui, il part, il revole, fait 3-4 flips, il se pète la clavicule. Je l'envoie 2 mois à l'hôpital. Tu sais. Fait que moi aussi, j'ai revolé, mais tu sais, c'est... En tout cas, ça, j'étais pas fier de moi, ni de l'équipe.
Oh, après les accidents, on vous dévoile la formule mathématique pour être de bonne humeur à tous les matins. Bon. Michel, ta vie, elle va changer
Rien
grâce à
affaire.
Ça.
Ben, ouais. Hey, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu voulais me dire?
Je voulais dire, lis le texto, je vais le lire. Amélie, vas-y. Radio Enfer, les intrépides, c'est mon enfance.
Yeah.
Je l'ai fait découvrir à mes fils de 10 ans et 7 ans. Merci de votre folie. Merci de nous écrire, Amélie.
Bon, c'est gentil, merci. Radio Enfer, les intrépides, c'est mon enfance. Je l'ai fait découvrir à mes fils de 10 ans et 7 ans. Merci de votre folie. Mais tu me dis, lis le texto.
Qui était fait?
Oh, je suis découragée.
Moi aussi, je pensais que
s'il
m'a eu,
mais
moi aussi, je n'étais pas bien.
Oh, j'étais là, il n'est pas là. Il y a eu une petite perte mentale.
Je suis tout là. Le seul qui n'est pas là, c'est Frank.
Ouais, bon, comme d'habitude.
Pour être de bonne humeur tous les matins, la docteure Anne-Marie Imafidon a déterminé c'est quoi la formule pour se lever du bon pied en se basant sur les résultats d'une enquête menée auprès de 20 000 adultes britanniques à propos de leur routine matinale et sur la façon dont ils se sentent au quotidien.
Ah ouais.
Alors, selon ses conclusions, l'heure idéale du réveil est à 6h44. Il faut sortir du lit avant 7h12, précisément. J'adore l'angoisse de François.
Okay.
Pour être de bonne humeur au lever du lit, il faut faire 21 minutes d'exercice, prendre une douche de 10 minutes avant de profiter d'un bon déjeuner pendant 18 minutes.
Ça, Frank, prendre une douche de 10 minutes, c'est à tous les jours, pas une fois par semaine.
Merci.
Okay. Ceux qui trouvent que ça fait un peu militaire, rassurez-vous, on dit aussi que la formule peut être adaptée aux horaires de chacun. Alors, la seule chose qui est intouchable, c'est le temps de sommeil qui devrait toujours être d'au moins 8 heures. Est-ce que vous dormez au moins 8 heures?
Ben, moi, ça me prend ça, sinon je suis pas fonctionnel.
Ouais, moi aussi, je suis dans ta gang. Okay. Toi?
Moi aussi, je l'ai. Mon 8 heures.
OK. Bon, là, on va faire le calcul, OK, pour vraiment savoir si votre matin est joyeux. Alors, c'est Michel qui sera notre...
Pas juste le matin, la journée au complet.
Ben,
puis tu te lèves de bonne humeur pour faire une belle journée.
Mais
c'est
en
ça.
Général, tu sais, toi, tu te lèves de mauvaise humeur, puis tu as une mauvaise journée.
Pas de mauvaise humeur. Anyway, vas-y, c'est quoi la formule?
Alors,
magique?
Additionnez les minutes passées sous la douche et celles passées à faire de l'exercice. Vas-y.
Zéro.
Bon.
Non, une douche, pas long, nous autres, une douche, 6 minutes, c'est fait.
Oui.
Foum-foum, des fois, tu te laves à la mitaine, la wipe sente les faufounes, ben oui.
Okay. Oui.
Alors, fais juste dire un chiffre, puis mets-le dans ta calculatrice.
Ah, 5.
Ajoutez-y 2 fois le temps passé à prendre votre déjeuner. Ah. Donc, combien de temps votre déjeuner, toi,
moi,
Michel?
Ben, moi, 3 minutes, c'est fait.
Donc, 6.
Non, moi, je l'ai apprise toute, là, ça compte-tu? Là?
Attends, oui, c'est ça, il y a ça qu'il faut rajouter.
Plus.
Dites... divisez-le le tout par votre temps de sommeil multiplié par la différence entre l'heure à laquelle vous vous êtes levé et cette heure d'ose.
Bon, attends une minute. Dis la troisième, là, parce que là...
Divisez le tout par votre temps de sommeil. Donc
divisé par 8.
Oui.
Mais t'as un peu fois quoi?
Ben, votre temps de sommeil multiplié par la différence entre l'heure à laquelle vous vous êtes levé et cette heure d'ose.
Bon, 8.
Bon. À ce total, ajoutez les minutes passées à faire une autre activité comme la lecture. Toi, tu lis ta presse. Moi aussi, je lis ma presse. Michel, lui, fait de la méditation.
Ben oui, de la méditation. 32 secondes et quart, puis alors, je pense à 700 affaires en même temps.
Si le chiffre final est supérieur à 37, il est fort probable que vous allez passer une belle matinée. Toi, t'arrives à quoi?
J'arrive à moins 8.
Bon, ben voilà! C'est ça!
Hey, c'est pour ça que j'ai des journées de marde.
Exactement.
Tu l'as pas fait le calcul?
Ben, j'ai fait dans ma tête, mais j'ai l'impression d'être au tricheur. J'ai perdu le fil.
C'est
ça. Non, mais là, écoute.
Je comprends
mais c'est pas
voilà,
clair, cette formule-là, Jess. C'est pas clair, ça.
Non, mais en tout cas, de toute façon, on va mettre tous les détails de la formule sur la page Facebook de Rouge. Comme ça, vous pourrez vous amuser à savoir
mais
si
sérieux,
vous êtes.
Sérieux, je suis en carence de quelque chose.
Moins
8.
Ben,
oui, mais ça, c'est sûr.
Mais.
Ça pas de sens. Ça, là, supérieur à 37. Ça marche pas. Il y a personne qui arrive à 37.
Donc, on comprend que t'es pas de bonne humeur le matin. Toi, t'es de bonne humeur.
Non, mais excusez, là, c'est le choix à Michel et Jess. Je vais parler de Michel quand il se lève le matin un peu. Là, je l'ai déjà vu, là, quand on écrit ensemble au chalet. Ça prend 3 secondes, tout est fait. Il n'y a pas le temps de relaxer, ce que tu relaxes
non,
pas.
Oui, j'ai pas le.
Tu as un café, toi, c'est fait. Oui, ben, le pad non, est mais là.
Mettons, s'il faut que je parte de chinois à 7h30, je me lève à 7h26, me brosse les dents du tour de bras. Ah ouais, je m'habille, bonsoir, on part. Moi, toi, qui se lève à 3h15, mets mes petits cafés, mettre ma presse, promener le chien, faire ci, faire ça, me maquiller, mettre des petites pochettes en dessous des.
Je fais tout ça. Hey, moi, c'est interminable le matin. Ben, ouais. Parce que sinon, je suis pas de bonne humeur. Sinon, je suis rushée.
Moi aussi, il faut que je mange mes toasts, tout, des fois.
Voyons, on n'a pas de temps à
parler. Une toast, une autre toast, le café, puis tout ça. Écoute, non, mais tu sais, ça, c'est. En fait, je pense qu'on est fait comme ça ou on l'est pas, tu sais, je veux dire.
C'est important, incapable.
Puis, tu sais, quand je te disais ça, tu me dis, mais donc, tu perds des heures de sommeil. Je dis, ouais, mais pour moi, je perds pas des heures de sommeil parce que sinon, je me lever à dernière minute, ça me fait capoter. Je suis pas capable de fonctionner de même.
Faut que.
C'est juste que, tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup de sympathie pour ma famille parce que moi, souvent, je suis au morning. Fait que je pars la machine à café, le grinder, je sèche mes cheveux, puis j'habite pas dans un palace.
C'est fun, les enfants, ça.
Oui.
Vous êtes vous levé tard, les enfants? Penses-tu, maman était debout depuis 3h15?
Je sais, c'est épouvantable. Ouais. C'est un running gag.
Elle chante du Ludovic Bourgeois bien fort dans la cuisine. Comme tout à l'heure. Mais oui.
Si vous avez tendance à vous lever de mauvaise humeur, écoute, j'ai des trucs pour changer votre humeur rapidement. Alors, je vous les nomme puis vous me dites si ça marche pour vous autres. Mettons, t'es de mauvaise humeur, t'écoutes ta chanson préférée.
Ah, ça me met de bonne humeur.
Oui, oui, absolument.
C'est appeler un ami.
Non, parce que je vais être de mauvaise humeur.
Tu vas déverser ta mauvaise humeur.
Tu vas chialer.
Oui, c'est ça. Mais moi,
oui, on peut s'appeler. Oui, oui, quand ça va pas.
On peut se crinquer un peu.
Oui, oui.
Pour chialer, puis après, ça va mieux.
Oui, oui. Parce qu'on trouve des solutions, puis j'essaye d'embarquer dans le positif la même chose.
C'est libérateur. Je me dis, c'est-tu moins qu'il est cave ou bien si? Il dit, non, t'as raison, puis là, on raccroche, puis ça va bien.
Non, c'est ça. Souvent, c'est ça. Aller prendre une marche, prendre l'air ou courir.
Ah oui, moi, courir, c'est ça, ça me fait du bien.
C'est sûr. Regarder des photos.
Bon, non, je fais pas ça.
Prendre une douche. Mouf.
Oui. Ben, moi, j'aime ça prendre des douches.
Moi, je sais, mais ça te met-tu de bonne humeur?
Non, ça ne me met pas de bonne humeur.
Ça te met propre, mais ça ne veut pas dire que ça
exactement.
Te met de bonne humeur.
Non, exactement.
Danser. Dépend qu'est-ce que tu fais. Oui, pardon? Danser? Non, moi, ça ne me met pas de bonne humeur.
Non, parce que
non.
Je te confirme que tu es un solide mauvais danseur.
Merci.
Se défouler sur papier, écrire tout ce qui nous manque à l'air.
Ah, ben ça.
Moi, ça m'a fait du bien, mais dans des périodes d'anxiété ou d'angoisse, des choses comme ça. Pour me mettre de bonne humeur, je n'ai pas besoin d'écrire. Là.
Non, c'est ça.
Au retour! Tu es lié, mon homme? Au retour, on parle de talent caché. En avez-vous des talents cachés, vous autres? Textez-nous au 6-12-13.
On vous demande c'est quoi vos talents cachés au 6-12-13, parce que là, c'est de ça qu'on va parler.
Absolument. Écoute, j'ai une bonne histoire de talents cachés pour vous autres. La décortiqueuse de crevettes. Hein? Grise, c'est une sorte de crevette, ça. Alors hier, dans un concours de vitesse, il y a une Belge qui a été sacrée championne en décortiquage de crevettes grises.
Déjà, il y a un concours de ça, c'est surprenant.
Non, non seulement il y a un concours, il y a un championnat du monde, y a-tu pensé? Pensez-vous qu'il y avait un championnat du monde de décortiquage de crevettes?
Absolument pas.
Non, bon, c'est ça. Fait que c'était la 17e édition. Et sur les 120 participants, c'est une femme, une Belge, Nadine Dietins, qui a réussi à en décortiquer 155 grammes en 10 minutes. Là, 155 grammes.
Et là,
je me dis que c'est rien, ça n'a pas de sens. C'est rien, on dirait. Hey, là, moi puis Barker, on a travaillé fort pour essayer de comprendre combien que c'est de crevettes 155 grammes. On a fait des recherches toutes.
Oui.
Et ça a l'air, là, notre entourage, là, Félix, JF puis Jonathan, ils ont dit que c'est à peu près 150 crevettes.
Donc, hey, 150 crevettes. C'est quand même beaucoup, 150.
C'est 15 crevettes à minute. C'est rien. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce concours-là.
Mais tu sais,
il rit du monde, je suis sûr.
Mais arrête, tu trouves que ça va pas assez vite.
Ouais, non, mais
sérieusement,
toi,
moi, quand
je
me mets à décortiquer de la crevette, ça y va. Même avec un verre de vin, toi, je prends mon temps, j'ose, je suis sûr que j'en fais plus qu'eux autres.
Mais là, tu penses que, donc, que cette compétition, et la fille, c'est pas suffisant.
Ben, peut-être qu'on calcule mal, mais tu sais, je veux dire, la crevette grise, c'est quoi les dimensions que tu disais, Félix? Ça va de
50 mm à 80
mm. 50 mm à 80 mm. J'en ai déjà vu des plus grosses.
Oui, mais c'est pas une question de grosseur, là. C'est pas le sujet qui nous occupe.
Je parle de crevette, come on.
C'est de la crevette de buffet chinois, ça, là.
C'est ça, mais.
Michel, il devait
Bref, elle a battu sa compatriote, la Belge Nicole Van Zingel. Et Nicole, cette charmante Nicole, elle a été 10 fois championne du monde et elle est détentrice du record du monde de la discipline. Elle a épluché 186 grammes de crevettes en 10 minutes. Même à ça, c'est ridicule. Frank, mon ami, t'as-tu un talent caché, quelque chose? Un talent aussi pertinent qu'il y a des crevettes?
Oui, c'est pas un talent très radiophonique. Là. Moi, je suis capable d'applaudir d'une main. Fait que je vais le faire devant le micro. Là, okay. C'est la seule chose que je peux faire. Fait que restez bien attentifs dans la voiture, montez le son. Silence dans 3, 2, 1. Fait que c'est pas
weird,
très radiophonique.
C'est tellement weird.
Mais non, mais si t'avais ma femme, tu trouverais des affaires.
Mais comment t'as découvert? Moi, c'est surtout comment cette découverte est venue.
Ah, comment? C'est ma vie privée. Non, c'est pas vrai.
Non, mais cette découverte, c'est beaucoup de drogue au secondaire, je crois.
Non, mais sérieusement, Michel me niaise souvent que...
François, il se gosse toujours après les doigts quand il est sur une nerf.
Oui. Ah. Je suis quelqu'un d'assez nerveux dans la vie. Ça apparaît pas avec ma
Son pouce, ça ressemble à un gros orteil. Gardez ça.
Oui, oui. Regardez comme à radio, c'est pratique, ce genre d'humour.
Son pouce, elle a un gros orteil. C'est dégueulasse.
Ouais.
Des fois,
c'est dégueulasse.
Ça, c'est un talent.
On rentre dans les anecdotes, mais des fois... Attends, laisse-moi finir mon anecdote.
Tu vas la dire. C'est juste que là, on va faire des stories pour que les gens puissent voir ton pouce et ton tapage de main à une main.
J'étais pas au courant de ça.
C'est ça.
Y a-tu quelqu'un qui le filme?
Mais on va faire ça pendant une chanson.
OK, parfait.
Continue.
Alors là, François, il y a vraiment un pouce qui ressemble à un gros orteil.
Parfait.
Et souvent, on disait aux gens, ben François, il est né avec un handicap, puis il s'est fait amputer un orteil.
Ouais,
et je te jure, sur 10 personnes à qui on le compte, les 10 le croient.
Il s'agit juste, regarde, je vois tout le monde l'autre bord, ils ont vraiment le goût de voir mon pouce, là.
Je te jure, c'est weird, là.
Puis ils essayent d'applaudir d'une main, ils sont
pas
capables.
En même temps, à son corps défendant, François, il y a d'autres talents cachés que les gens connaissent pas. François, c'est un très grand pianiste.
Oui. Ah.
François, c'est un mélodiste. Pour nos shows de théâtre d'été, souvent, c'est François qui compose la musique.
Wow!
François est un enseignant au secondaire en comédie musicale.
Bon.
Et François est un pêcheur hors pair.
Bon.
Alors ça, c'est des talents cachés que lui n'ose pas dire, mais moi, je trouve ça impressionnant parce que... Et c'est un bon musicien, François, mais... C'est le genre de gars qui a un talent naturel parce que c'est pas, tu pratiques pas à outrance puis tout ça, mais il compose puis il consomme beaucoup de pianistes. Je te dirais que dans ses musiciens préférés, c'est souvent des grands pianistes.
C'est vrai.
Exactement.
Puis quand tu pêches, t'es-tu rapide pour la gestion du coupage de l'éventrage de poissons?
Il appelle
là,
les
le
poissons en applaudissant d'une seule main.
c'est ça.
Non, mais le nettoyage, là, t'es-tu bon là-dedans?
L'éviscération, oui, je suis bon. Fileté, je suis moins bon, mais je le fais pareil.
Ça dépend de ton couteau.
Ouais, toi, Jess, t'as-tu un talent caché?
Ben oui.
Mais certainement. Mais en fait, c'est drôle. Au début, quand on a fait le sujet, je me disais, non, j'ai pas de talent caché. Je me trouvais pas. Puis finalement, j'ai une idée.
Bon,
puis je vous en parle tantôt.
Excellent, restez là parce qu'elle nous parle tout de suite après, évidemment, de son talent caché. Et continuez à nous texter vos talents cachés. On est content de partager ça avec le reste de la population. Textez-nous ça au 6-12-13.
Dans Copilote pour l'été, on parle de vos talents cachés. C'est très surprenant, tout ce que nous apprenons. Mais je vais commencer par parler de mon talent caché. Yes. Parce que je me dis, voyons, j'ai pas de talent caché.
Oui, t'en as,
pas
t'en ça. As plein de talents cachés.
Mais non, mais tu sais. Puis là, finalement, je me suis dit, ah oui, moi, ce que j'aime le plus dans la vie, là, c'est d'être une réseauteuse professionnelle. Moi, j'ai des références pour toutes. Puis quand le monde m'appelle, je dis, ah là, tu peux appeler telle personne. Puis ça va être bien.
Mais
puis ça va bien se faire.
C'est fascinant, c'est que c'est pour toutes. Je t'appelle, j'ai des problèmes de plombier, tu vas m'en trouver un là, t'en connais un.
T'as l'âge, t'ai géré une histoire de fleuriste.
Exactement.
J'ai fait, t'appelles là, c'est super beau. Pas là, c'est rendu off. Fait que je suis toutes ces affaires-là, puis j'aime ça. Je suis comme une organisatrice dans l'âme. J'ai raté ma carrière, j'aurais dû faire ça.
Non, t'as pas raté ta carrière, parce Merci. Que c'est un plaisir de faire de la radio avec toi tous les jours, Jess.
Oh, tu es gentil. Tu es gentil.
Ça pourrait être un après-carrière, par exemple.
Ben oui, pour ma retraite.
Ben oui, Jess,
je vais faire ça chez
Inc.
Vieux.
Ça va être parfait, ça.
Je vais être bonne.
Ah, écoute, on a reçu un paquet de textos des talents cachés. C'est extrêmement drôle et intéressant. Il y a Nicolas Le Cavalier de Mascouche qui dit « Mon talent caché, le piano. Et oui, depuis que je suis tout petit, j'ai l'oreille musicale et je suis capable de reproduire des chansons populaires au piano, de même que des classiques tels que Beethoven.
Hey, » Ça m'impressionne tellement. Capoté, là. Moi, j'ai comme zéro sens musical, là, zéro rien. Là. Ça fait pas partie de moi. Il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, je suis capable d'applaudir avec mon index qui frappe sur mon majeur, un peu dans ta gamme. »
C'est ça.
On dirait que j'ai la tourette quand je fais ça.
Ça
mais un peu
weird,
comme toi.
Tu sais, quand elle passe une chire et elle le fait là, dans l'autobus, le monde doit la regarder. On a dit, ça va?
Jessica Veillette de Saint-Hyacinthe. Je suis capable de mettre ma langue dans mon nez assez pour que je me décrotte le nez.
Frank, pas de commentaire.
C'est bon. Merci.
Magali Brosseau, je ne saurais pas comment vous dire, mais j'ai découvert mon talent caché. Je suis capable de boire une bouteille d'eau de 500 millilitres en une seule gorgée. Impossible.
C'est un demi-litre, ça rentre au poste.
Moi, je vomirais.
Moi, je fais ça avec de la bière, mais ça...
Impossible.
Une canne d'eau. On a Stéphane de Saint-Louis du AA. Il me dit, j'imite le bruit d'une canne de crème fouettée. Comment? On l'a en ligne? Oh, on l'a en ligne. Stéphane! Allô, Stéphane?
Allô?
Ça va bien?
Oui, bien
okay,
vous?
Donc, oui, bien, ça va bien, merci, c'est le fun. Écoute, tu nous appelles de Saint-Louis-du-Haha, c'est dans quel coin du Québec, ça?
Ah, wow!
En Montérégie.
Ah, très bien. Alors, écoute, ça a l'air que tu fais le bruit d'une canne de crème fouettée, alors on aimerait ça t'entendre, s'il te plaît.
Oui.
Go!
Merci beaucoup, Stéphane.
Hey, merci, Stéphane, pour ton appel! J'adore! Oh, bon, hein? Un beau moment de radio.
Hey boy, on s'ennuie de Monique Néron.
C'est ça.
On parle de talents cachés. Il y a des stars qui en ont, Michel?
Oui, il y a des stars qui ont des talents cachés. C'est extraordinaire. Il y a Beyoncé. Elle est excellente à Connect Four.
Je sais pas c'est quoi, Connect Four.
C'est un jeu vidéo, je pense. Hein, c'est une PlayStation non. ou quelque chose comme ça. C'est ça. Aidez-nous pas personne. C'est le fun.
Ah, Connect Four, je lis chez nous.
Elle dit, je sais pas c'est quoi.
Mais là, je viens de penser. Non, non, mais c'est qu'il faut que tu fasses un lien avec les quatre couleurs. Je suis poche à ça.
Écoute, j'étais à ça de le dire.
Bon, OK, parfait.
Alors, elle, supposément qu'elle est imbattable, qu'elle aurait développé son talent en jouant contre sa fille Blue Ivy. Bon, c'est sûr, si tu joues contre juste des enfants, c'est sûr que t'es imbattable.
Mais c'est quand même difficile.
Mais non, mais là, elle joue avec une fille de 6 ans et quart.
Ben, Madonna.
Oh, on a Stéphane qui vient de rentrer en studio. Salut, Stéphane.
Salut, Stéphane.
Oh là là. Madonna, elle écrit des livres pour enfants. C'est pas un talent caché. Mais c'est quand même surprenant.
Non, c'est le fun. L'actrice Jennifer Garner, l'ancienne épouse de Ben Affleck, qui est maintenant monsieur rendu Ben Jennifer
J-Lo.
Alors, elle joue du saxophone pour la fête de son ami Reese Witherspoon. Jennifer Garner, il a offert un solo de sax party. Écoute, c'est un beau talent quand même, mais t'en joues du sax un peu, Frank, non?
Trombone,
c'est ouais. ça, ouais.
Oh excellent. Mon Dieu, c'est 1980 un peu le sax, non?
Hein? Ben, c'est André-Philippe Gagnon qui l'imite. Là,
ah oui, on l'entend dans notre tête. Exact. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, serait une excellente mime. Supposément qu'elle adore faire rire ses invités en faisant du mible à table lors des réceptions.
Ah, j'aurais aimé ça être là. Je veux avoir mimé, elle.
Ben oui.
Elle mime quoi?
Ben, mettons, je sais pas.
Aussitôt qu'à part un mime, toute sa garde rapprochée doit penser qu'elle est malaise.
Oui, ben c'est ça, puis ça doit créer des malaises. Bon. Oui. Est-ce que vous trouvez l'acteur Zac Efron à votre goût?
Non, pas du
moi,
tout.
Oui.
Moi,
rien bon, rien pour vous aider à vous calmer. Zac Efron fait du pole dance. Oh my God!
Mon Dieu, que ça doit être sensuel.
Ben oui.
Dans quel sport la grande actrice Susan Sarandon est-elle habile? Le ping-pong.
Oh mon Dieu.
Et sa partenaire dans l'excellent film Thelma & Louise, Gina Davis, elle a figuré en 1999 parmi les finalistes pour faire partie de l'équipe américaine de tir à l'arc en vue des prochains Jeux olympiques de Sydney en l'an 2000.
Wow.
Elle s'est rendue jusqu'en finale. Ils en ont sélectionné trois, puis malheureusement, elle n'a pas fait la cote. Mais quand même, si tu t'en vas aux Olympiques, t'es sur le bord d'y aller. Là,
moi, j'ai déjà essayé de faire du tir à l'arc. Je n'étais même pas capable d'envoyer. Ça tombait à terre.
C'est sûr, Jess, à grandeur
c'était
que tous.
Oui. C'était
la
vraiment
flèche,
un échec.
Bien loin, là.
Finalement, le plus surprenant de la liste, Michel Charrette,
oui.
adore le yoga.
Ah, mon Dieu, oui. ça, c'est plate. C'est tellement...
Je sais, ben oui, j'ai entendu un bout de tête. Oui,
bref, on enchaîne.
Michel est un bon batteur, hein, ceci dit, je lui rends l'appareil. C'est un bon drummer.
Batterie,
c'est un
là,
bon
pas, drummer. Pas batteur de, la... de Jean, là, batteur non. de la musique.
Claudine Prévost vient nous parler de musique. On joue à un jeu sur les seins S-A-I-N-T, et François nous parle de culpabilité. Tout ça, tantôt!
On rentre dans notre deuxième heure déjà. Ça passe vite, mon Frank, hein?
Ça passe très vite, très
écoutez,
agréable.
Vous écoutez Copilote pour l'été avec Jessica Barker, Michel Charrette et évidemment notre invité que je viens, à qui je viens de parler, François Chénier.
Allô, Michou.
T'es heureux d'être là?
Très heureux.
Excellent.
Demain, c'est Lise Dion qui va être notre invitée en direct des grands feux du casino du lac Lémy parce qu'on sera à Gatineau. Et pour bien comprendre pourquoi c'est pas toi, François, qui viens à Gatineau, ben on va expliquer aux gens que tu devais être au théâtre. Dans Symphorien, quand on t'a booké.
Absolument.
Mais là, ton show est annulé pour des raisons oui. de...
De maudit virus.
Ouais. Voilà.
Et c'est ça.
Alors, annulation dernière minute. Donc, finalement, t'aurais pu venir, mais là, on avait déjà booké Lise Dion, fait que tu viendras pas.
Exactement.
Désolée, mais...
Il n'y a pas de trouble.
Fait que demain, on va être avec Lise à Gatineau et jeudi, on te retrouve en studio.
Super.
Encore une grosse heure à venir au menu.
Ben oui, François va nous parler de culpabilité. Ça a-tu rapport au fait que ta blonde trouve que t'es jamais à maison?
Ben, c'est, l'idée m'est venue un peu de là.
Excellent, good.
Ça va bien.
Jess, tu vas nous parler du documentaire sur le décès de Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Dauzan que tu as vu hier, évidemment. Au retour, notre collaboratrice Claudine Prévost vient nous rendre visite pour une dernière fois cette saison. Alors, Claudine, tu vas nous parler de...
D'Olivia Newton-John.
Oh,
oui, décédée hier.
Ben ouais. Absolument.
Fait que j'ai décidé de vous raconter la petite histoire derrière son grand succès. Faisait con. Et c'est drôle parce qu'il y a un parallèle le fun à faire avec Grease dans son personnage de Sandy.
Ah oui?
Qui se développe tout au long de la chanson. Vous allez voir.
Bon, j'avais le poster dans ma chambre d'Olivia Newton-John.
Ah oui?
Habillé en... En physical, professeur de
oui, ben c'est ça, de physical.
De balladier.
Ah, de balladier, j'ai compris, oui. de balladier.
Non, pas balladier. De
Claudine Prévost. Claudine Prévost. Aïe, 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 aïe.
Le thème qu'on aime danser, Claudine Prévost. Comment ça
sauf
va?
Michel et François, qui
sont
assez
heureuse.
Tranquille au niveau du
ouais,
mouvement
ouais.
pendant ce thème.
Non, mais c'est moi, mon fun, c'est de regarder Jess faire des niaiseries.
Ah, OK, j'avoue qu'elle vole le show de toute
oui.
façon.
Ouais.
Bon, ben oui.
Physical!
Oui, grosse tourne au début des années 80. Je me suis dit qu'on ferait un hommage aujourd'hui à Olivia Newton-John, qui est décédée d'un cancer hier à l'âge de 73 ans. Tout le monde lui rend hommage aujourd'hui, alors je me suis dit que j'ajouterais mon petit grain de sel.
Fais bien.
Physical, grosse tune, puis oui, il y a un petit parallèle à faire avec son personnage de Sandy dans Grease, parce que Physical, c'est une chanson pour le sexe. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà arrêté aux paroles. Let's
à l'âge
physical.
Qu'on l'écoutait,
on parlait pas anglais.
I wanna get physical.
Ah, ben oui,
mais tu sais, comprends-tu?
Oui.
Quand on prend la peine d'écouter les paroles, c'est assez clair. Et par contre, Olivia était moyen à l'aise avec le propos parce qu'elle avait une image pas mal proprette à ce moment-là. C'était comme la Sandy du début du film.
C'est ça.
Comprends-tu? Elle avait peur que ça lui donne une mauvaise réputation. Et c'est son producteur à l'époque qui disait, c'est une grosse toune, enregistre ça, ça va être bon. Et elle a accepté de se transformer en Bad Sandy pour enregistrer cette chanson-là qui, ceci dit, avait été composée pour Rod Stewart, qui en a pas voulu. Après ça, ils l'ont proposé à Tina.
Rod, j'aime tellement Rod.
Ah oui?
Moi, j'ai une passion pour Rod Stewart. Fallait que je le dise.
Ben,
alors
Dieu,
voilà.
C'était senti, c'était beau. Oui.
Mais maintenant, tu vas pouvoir dire qu'il a refusé physiquement.
Mais juste, excuse-moi, cette chanson-là a été écrite après le film Grease, c'est ça?
Cette chanson-là date de 81.
Le film
avant, okay, les années
merci.
70.
C'est bon.
Oui, et Tina Turner aussi avait eu cette chanson-là dans ses affaires.
Ah,
puis elle n'a pas voulu l'enregistrer parce qu'elle trouvait ça trop provocant.
Trop sexuel.
Alors que Tina Turner avait quand même une image de femme forte,
femme
assumée,
fatale,
puis audacieuse. Fait que c'est pour vous dire à quel point c'était intense pour Olivia Newton-John, la petite prude. Mais c'est pour ça qu'ils ont décidé, son équipe et elle, d'enregistrer un vidéoclip qui détournait complètement l'attention du sexe.
Voilà.
Vous souvenez-vous, tu parlais du poster d'elle, là, habillée en aérobie. En pastel. Ils sont allés dans un gym, dans une espèce de studio.
Il y avait des grands femmes, il y avait des obèses qui
c'est vrai.
En spandex. Là, c'était
oui.
pas, c'était pas, c'était
ben,
pas...
Il y avait des dudes aussi musclés
non, mais c'est
et
ça,
tout
y avait
en speedo.
Les deux,
puis, oui, c'est ça. Et tu avais elle habillée en pastel qui se promenait à travers tout ce monde-là. Il n'y avait pas un homme qui l'enlignait du regard, absolument pas. Parce qu'on se rendait compte à la fin du vidéoclip qu'ils étaient gays.
Ah bon.
T'sais, on voulait tellement pas qu'on pense qu'Olivia Newton-John était cochonne. Qu'on avait vraiment transformé un vidéoclip. clip. Vrai? Ben oui, c'est hallucinant, hein? Mais quand même, malgré ça, les radios ont... Il y a plusieurs radios qui ont refusé de tourner la chanson parce qu'elle était trop olé-olé à leur goût dans quelques États américains. Et le Billboard, tu sais, qui fait tout le temps des décomptes, avait listé les 100 chansons les plus sexuelles de tous les temps. Et c'est cette tune-là, Physical, qui s'était retrouvée en première position.
Wow.
Ça, c'était avant l'arrivée des rappeurs. Et des
ben
rappeurs,
oui, oui,
qui ont amené ça comme next level, là, on s'entend-tu? Hein? Ouais, exact. Alors voilà, la planète qui continue de lui rendre hommage aujourd'hui. Et le plus beau mot, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est celui de John Travolta.
Oui, c'est très touchant.
Son ancien partenaire de jeu. François, on dirait que non, hein, je te dis ça.
Je ne l'ai pas vu, moi non plus.
C'est
quoi qu'il a dit?
Il a dit, ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. À toi, dès le premier instant où je t'ai vu, et pour toujours, ton Danny. Ton John.
C'est bien trop beau, ton
Danny.
Danny.
Ton John,
oui.
C'est
oui. Oui.
Est-ce que ça, à ce jour, ça a été son plus grand succès? Hein,
absolument.
C'est clairement un dès, oui. C'est pas son premier, ça n'a pas été son dernier. La trame sonore de Grease a été formidable. Après ça, le fait Xanadu.
Xanadu,
de ce film-là. Le fait de remporter un moins grand succès, mais la trame sonore est au
la toune, évidemment.
Oui, exact.
Je ne la chanterai pas.
Non, s'il vous plaît.
Ah, merci.
Non, non, hey, pas la peau.
Ah, OK.
Regarde, ça fait 7 semaines, là, moi, le break.
Fait qu'on l'écoute-tu?
Mais j'aimerais
ben
ça!
Écoute, on y va avec...
Mais avant, je veux te remercier quand même d'avoir passé l'été avec nous, Claudine, de nous avoir raconté l'histoire de plein de chansons. Moi, c'était mon trip. Fait que j'aime ça me faire raconter des histoires de chansons. Je te remercie. C'était vraiment le fun. Puis la semaine prochaine, on est à Québec, fait que t'es pas là. C'est juste
non,
ça.
C'est ça.
Puis après ça, ben, c'est fini, Copilote, pour l'été.
Ben voilà. Moi, ça a été un grand bonheur que vous m'accueillez comme
ça
chaque semaine.
Ça a été un grand plaisir.
C'est vraiment le fun de faire de la radio avec vous.
Merci beaucoup.
À bientôt!
Alors, c'est Physical. Au retour, on va vous parler du documentaire qui est sorti sur le décès de Canto, le décès de Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon.
Vous écoutez Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et François Chénier.
Yeah.
Le 10 août 1997, Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon perdaient la vie à 100 km de Coudjouac dans un crash de Cessna. Moi, j'ai connu Marie-Soleil. On a travaillé ensemble à l'animation du Téléthon Opération France-Soleil. Je garde un souvenir magnifique de cette femme. Et pour souligner les 25 ans de cet événement, il y a un documentaire percutant qui est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme Vrai. Le titre, c'est « Marie-Soleil et Jean-Claude, au-delà des étoiles ». Je l'ai regardé ce matin. C'est vraiment fascinant de retourner dans le temps, de voir l'histoire derrière ce couple si discret. On apprend plein de choses, entre autres que Jean-Claude Lauzon ne voulait pas s'engager, que Marie-Soleil le surnommait son pot-chum, qu'ils étaient si différents. Elle, c'était l'enfant chéri du Québec, aimé de tout le monde. Puis lui, c'était l'enfant terrible du cinéma québécois. Il faisait peur à tous les producteurs parce qu'il s'ostinait sur tout. Le montage, les acteurs, c'était vraiment, vraiment quelqu'un qui avait un fort caractère.
Aucun compromis.
Exactement. C'est ce qui fait aussi qu'il faisait des grandes œuvres. Il a fait 3 films qui ont fait l'histoire du cinéma québécois. C'était comme un pitbull. Puis Marie-Soleil, c'était une fée, tout en douceur. Ce qui les a réunis, c'est leur passion pour la nature, l'aventure, la chasse, la pêche, le silence du Grand Nord. On a dans le documentaire un témoignage de son frère, Sébastien. Il y a aussi sa maman, Mimi, que j'ai bien connue. Une femme si douce, si joyeuse comme Marie-Soleil. Et elle raconte, la seule personne qui peut comprendre ce que je ressens, c'est la mère de Jean-Claude, Alma. À jamais, on va être unis dans ce drame-là.
Ouais, c'est sûr.
Dans le documentaire, il y a des extraits de journaux intimes, de poèmes qui sont lus par des acteurs sur des super belles images. C'est super intime. L'équipe de réalisation a vraiment brossé un portrait touchant et bouleversant de ces deux artistes-là qui sont disparus trop tôt. Il y a des images d'archives aussi qui mettent en parallèle, tu sais, leur réalité qui était si différente, tu sais, de Cannes au Métrostar, de Fort Boyard au gros plateau de tournage de cinéma que Jean-Claude dirigeait, des sous-sols de TVA au Chac dans le Grand Nord. Puis évidemment, en visionnant le documentaire, mais ça m'a fait plonger dans le moment où le temps s'est arrêté, que Guillaume Lemaitre-Vierge m'a pagé parce qu'il y a 25 ans, on n'avait pas de cellulaire, mais bien des pagettes. J'étais dans un chalet très loin avec une bande d'amis. Il m'a dit, écoute, le téléjournal va ouvrir avec l'horrible nouvelle. Soleil, comme on l'appelait, est morte dans un accident. Il voulait me prévenir. Tu sais, ça, c'est avant Twitter, avant Facebook.
Non, c'est ça. C'était nos seuls moyens de communication, exactement.
Et on a pleuré au téléphone. Elle avait 27 ans seulement. Mmh. Et c'est il y a 25 ans demain.
Exactement.
Alors, c'est un film merveilleux à découvrir, très intéressant. Puis j'avais envie de discuter des événements marquants dans notre vie où on se rappelle exactement où on était, la température qui faisait. Tu sais, quand le temps s'arrête d'une certaine façon.
Des moments importants comme ça, des décès de gens très, très connus. Exactement. Ou des événements dramatique, tu sais, on se rappelle, mettons, le 11 septembre 2001, mmh. où c'est qu'on était. T'étais où, toi, Jess?
Ah, ben, j'étais chez nous, je m'en rappellerai toujours. J'habitais avec mon frère à l'époque, c'était mon coloc. Puis, je me rappelle, on était là, scotchés devant notre téléviseur. Impossible d'arrêter de regarder les nouvelles en boucle. Mmh. Puis, d'essayer de comprendre. C'est des chocs un peu, là, tu sais, le décès de Marie-Soleil ou ce genre d'événement-là. Ton cerveau est pas capable, on dirait que.
D'assimiler ça.
T'as beau le regarder en boucle. Tu te rappelles de tout, tu sais. Toi, t'étais où, François, justement, lors du 11 septembre? Est-ce que tu t'en souviens?
Très bien. Chez moi, dans ma cuisine, puis je me souviens même intérieurement de m'être dit, OK, c'est pas si grave que ça, repousser ce que je voulais pas.
Le déni.
Ben, c'était du déni. J'étais, non, ça se peut pas. Puis t'avais ma belle-sœur à côté, on est en guerre! Fait qu'il y avait les deux extrêmes.
Moi, j'étais chez le dentiste.
Et, ça, c'est incroyable.
J'étais chez le dentiste à la chaise, puis évidemment, les nouvelles joies. Puis là, on vient d'apprendre qu'un Cessna vient de rentrer dans une tour, tu sais. Et là, finalement, c'est pas ça, puis ça déboule. J'ai tout annulé mes rendez-vous. J'ai appelé François, j'ai dit Frank, m'en va chez vous. Mm. On s'est ramassé une gang chez François, moi, toi, Jean-Nicolas,
c'est vrai, Véro,
ton frère Félix, Luc. Écoute, honnêtement, on regardait les nouvelles et on a viré une solide brosse.
Ben oui.
Pourquoi, je le sais pas, mais on a écouté ça toute la journée. Puis on faisait, dans notre tête, ça a fait, OK, là, le monde vient de changer pour quelque chose.
C'est vrai.
T'sais, ça a été une journée... percutante, moi, dans ma vie, en tout cas. Là.
Il y a plein d'importants dans
c'est ça. Je vais vous nommer des événements importants des 50 dernières années, puis vous me dites si vous vous en souvenez, puis si ça vous a marqué. Évidemment, la mort d'Elvis Presley, on était un peu jeune, c'était le 16 août 1977, pardon. Ça va faire 45 ans, dans une semaine exactement, mais je me souviens de mon grand-père qui habitait chez nous à l'époque, qui a dit « Elvis est mort
».
Et là, il y a eu comme un silence dans la maison.
Ah, ouais.
Et là, évidemment, il n'y avait pas de nouvelles continues comme aujourd'hui, tout ça, à l'époque. Mais je me souviens de ce moment-là, de mon grand-père, qui pour lui, ça l'avait comme très, très touché, tu sais. Il y a aussi cette phrase-là aussi.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire « à la prochaine fois ».
Écoute, c'est en 1980, j'ai encore des frissons
au point de
ses bras. C'est quand le PQ a perdu son premier référendum en 80. Évidemment, encore là, on était jeunes, mais moi, chez nous, mon père avait voté non.
OK.
Donc, c'était la fiesta.
Il était content.
Parce que mon père était un fédéraliste. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Puis mon père avait travaillé pour le oui, tout ça. Fait que je comprenais pas trop c'était quoi cette affaire-là, parce que j'étais encore jeune. T'sais, mais toi, te souviens-tu, Frank?
Ben oui. Moi, je m'en souviens même qu'à la mort de René Lévesque, j'ai appelé ma mère. Il n'y a évidemment pas de cellulaire à l'époque. Je me souviens, c'est un téléphone public. Je mets 50 cents ou 25 cents. J'appelle ma mère. Je dis, as-tu entendu pour René Lévesque? Et j'ai juste entendu ma mère faire... Puis raccrocher.
À pleurer.
À pleurer tout de suite, à casser tout de suite. Moi, c'était pas fédéraliste chez nous.
Non, c'est ça.
Moi, je me souviens très bien.
Il y a notre fameuse crise du verglas en 98. Hey, moi, j'étais chez nous, mais toi, Jess...
Moi, j'étais à Cuba avec Bolduc, puis on regardait tout ça à la télé, puis on capotait. On se disait, ben voyons, c'est la fin du monde au Québec. On était loin de tout ça.
C'est fou, raide. Toi, Frank, la crise,
nous, on a été, je pense qu'on était sur la rue Berry à l'époque.
Ben oui, moi, j'étais sur Brébeuf, sur Berry. Puis on se faisait des soupers fondus chinois.
C'est ça, c'est ça.
C'est vrai, sérieux.
C'est vrai,
c'est juste ça qu'on pouvait faire.
Là.
On n'avait pas d'électricité, on n'avait rien. Moi, j'ai pas manqué d'électricité longtemps parce que j'étais sur une ligne d'hôpital. Mais mon frère qui habitait en Montérégie, il n'a pas eu d'électricité pendant 28 jours.
Il était dans le triangle noir.
Ça a été quelque chose. Puis il faisait froid, puis tout ça. Là, c'était quand même particulier. Évidemment, le bug de l'an 2000 où on pensait que tout était pour shutter down.
Ouais.
Finalement, il ne s'est rien passé. Mais moi, je me souviens très bien de cette soirée-là et je me suis couché très tôt le lendemain matin.
Ah oui, hein?
Ouais, très, très tôt le lendemain matin.
Mais parce qu'ils n'avaient pas fermé les bars, parce qu'ils avaient peur que ce soit le chaos. Alors là, tout était ouvert toute la nuit. Moi, je me rappelle, j'étais au parc Jeanne-Mance, il y avait des feux d'artifice, toute la famille était là. On avait vraiment l'impression qu'il se passerait quelque chose. On était tous en attente, un peu en mode panique. Finalement, il n'y a rien arrivé pantoute.
Vous écoutez Copilote pour l'été sur les ondes de Rouge partout au Québec. Écoutez les textos, c'est fascinant, des événements marquants qui vous ont évidemment marqué. Et c'est ça, il y a quelqu'un qui nous écrit la mort de Dédé Fortin. Ouais. Moi aussi, je me souviens très bien où j'étais pendant ce moment-là.
Absolument.
Ça a été un gros choc culturel au Québec, ça. Il y a Christine de Belleuil qui dit « Jessica, tu vas me faire pleurer, tellement émouvante. » Notre belle Marie-Soleil qui nous a quittés pour rejoindre les étoiles. Elle aura laissé sa marque à jamais. Il y a Vicky de Mirabel, elle a dit « Hey, j'ai été créée pendant la crise du verglas. Ah, ah ouais, bam boum, bam boum, les parents. Comment?
Pas d'électricité, hein?
Ouais, je t'ai dit qu'il doit y avoir eu beaucoup de bébés post-verglas, comme il va y avoir beaucoup de bébés post-pandémie.
Absolument. On le disait un peu plus tôt, demain, on se rend direct de Gatineau dans le cadre des grands feux du casino du lac Lémy avec Lise Dion comme invitée. Et comme à chaque semaine, Jean-Marie Lapointe sera avec nous pour remettre encore une fois une bourse de 2 000 $ à un organisme par l'entremise d'une personne qui s'implique dans la communauté de Gatineau, Ottawa. Tout ça grâce à Belle et le mouvement Mieux pour tous. Encore félicitations à Charles Sirois de Drummondville qui a remis 2 000 $ à la Fondation Fibrosquistique Canada. Continuez de vous inscrire au rougefm.ca, section concours.
Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été. Au retour, mon ami François prend le contrôle et nous parle de culpabilité. Restez avec nous autres. Écoute, mon beau François, on n'impose rien à nos invités, non. Mais d'emblée, tu as dit, ben écoute, si j'ai l'espace pour faire un sujet, mais ça me tente au bout. Fait que
oui.
Tu t'es proposé de faire un sujet, on est super content de ça. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de culpabilité.
Oui, je profite de ma présence ici pour poursuivre ma thérapie. Alors, vous en êtes... c'est un peu vrai parce que, tu sais, j'ai 50 ans, je suis au début de la cinquantaine.
52.
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm. C'est ça. J'adore la
prédiction. Ouais. Non, mais là, merci, il essaie
Michel.
De s'en sortir.
Non, je suis né en 70, je veux que je fasse. Fait que là, oui, j'ai 52 ans, puis je me suis rendu compte que j'avais de la hargne en moi. J'étais là, voyons, pourquoi j'ai... Hein? Ouais, ça fait 2 ans, là. Fait 2-3 fois, je grimpe dans la face à quelqu'un, puis là, je me suis dit, voyons, comment, c'est pas moi, ça.
Mais en même temps... Excuse-moi.
Non, mais
je suis content, moi, que tu le fasses.
Ben oui, ben
parce
oui.
Parce que pendant longtemps, François, il disait pas un mot, puis c'était toujours oui, puis tout, puis ça me fâchait, je me disais... Come on, man. Ah ouais, ben ouais. Le gars, depuis une couple d'années, il le fait, puis ça me rend fier. Ouais. Je suis fier de lui. Excusez-moi, parenthèse.
Il est fier que j'ai le goût de me battre. Fait que là, mais, non, mais j'exagère, mais ça m'est arrivé. Voyons pourquoi j'ai le goût de me battre. T'sais. Puis là, je n'ai parlé à ma psy un peu, tout. Puis en fait, j'ai réussi à pointer plusieurs fois. Voyons, c'est la culpabilité qui m'amène là, parce que tu te dis, je suis en tabarbip, puis... Puis c'est facile de dire, bon, c'est la job, c'est le stress, c'est tout. Mais j'ai pointé, je vous donne un exemple. Je me lève à 9h à matin. Vous allez voir à quel point on peut accumuler sur notre charge mentale des éléments de culpabilité qui n'ont pas rapport. Mm-hmm. Je vous donne un petit exemple. Je me lève à matin. Ça, tout le monde, le cadran, je paye sur snooze. Pas grave. Mais ça, c'est le début de remplir ton petit vase de culpabilité. Une petite goutte de culpabilité.
Élément 1.
Paye sur snooze. J'étais debout à 9h, rien là. 9h38, 9h47 finalement. Et bon, un peu de culpabilité. Là, je descends en bas, je déjeune. Ma blonde est là, elle monte en haut. C'est le bordel dans la cuisine. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas de lave-vaisselle chez nous. Fait que là, c'est le bordel, vous imaginez?
L'horreur.
Ben oui, des fois ça marche, des fois. Puis là, je dis, hey là, regarde, j'ai pas le temps. Faut que j'aille voir mon père. Pourquoi je vais voir mon père? Mon père est en centre de personnes âgées. Tout le monde, en ce moment, je parle de ça, tout le monde a une relation avec ça, tu sais, s'occuper de nos parents. Puis je l'aime, mon père, mais aujourd'hui, je suis pas allé le voir parce que je l'aime. Je suis allé le voir parce que ma charge mentale est trop lourde en ce moment. Mm-hmm. Tu sais, ça fait 2 semaines que je suis pas allé à cause de Saint-Forien, de tout. Bon, alors, ma journée continue, tu sais. Fait que je m'en vais voir mon père, puis je vais voir mon père à cause de la charge mentale de culpabilité. Dans le char, je me dis, ah, je suis pas allé chercher mes choses. Puis ça, je me suis juste dit en passant au début de ma journée, je vais juste noter les petites agressions de culpabilité. Je vais juste les noter, voir. Fait que là, je me dis, ah, je suis pas retourné au théâtre du Vieux-Terrebonne chercher mes affaires. C'est pas grave. Mais je sais que le directeur technique là-bas, il attend qu'on vide les loges.
Ben oui.
Fait que là, un petit peu plus de charge mentale, je suis pas allé, il faut que j'y aille demain. Là, je passe au coin de la rue Sherbrooke. Mon agence est là, vous autres aussi. C'est vrai, hey, je dois 800$. Fait que là, ça t'ajoute ça à la charge mentale.
Moi aussi, j'ai pas de charge mentale.
C'est l'autre, t'as baissé le chiffre que tu m'as dit.
Ouais, c'est sûr. Mais non, mais j'essaye des fourrés, c'est pas ça va marcher. Mais non. Et là, j'écoute la radio, puis là, j'entends la radio. On a finalement retrouvé dans les Laurentides l'homme qui est tombé d'une fosse à Purin. Là, moi, je pars à rire. Pour finalement réaliser qu'il était décédé. Là, moi, ah, bon,
là, tu te sens mal.
Ouais, mais moi, un gars qui tombe d'une fosse à Purin, je crampisse. Ouais. Fait que là, je ris.
Mais là, pour finalement réaliser qu'il était décédé, puis là, je me suis surpris. J'ai dit, ça tombe-tu bien? La journée, je parle de culpabilité. C'est un autre exemple. J'arrive au centre pour vieux. Le gars qui est là, c'est un préposé qui est extraordinaire. D'habitude, il est là, il est extraordinaire avec mon père, il sort tout. Puis j'y ai promis des billets de théâtre, tout. Puis la dernière fois, j'y en ai pas parlé, parce que je les ai pas tout de suite, les billets de théâtre, puis tout. Puis là, j'arrive, puis il est plus là, c'est un autre.
Ah, il a perdu sa job?
Ben, je sais pas s'il a perdu sa job, mais moi, j'y ai promis des billets. Je le sais que. Puis tu sais, c'est un détail, ça vous arrive 35 fois dans la journée. Mais là, tu sais, j'ai pas le temps de vous dire à quel point. Là, je suis arrivé ici à 3 heures, j'avais tout ça. Et mon père qui me dit, on peut-tu aller voir ma petite maison sur le bord de l'eau? Tu sais, il est à 5 minutes de son ancienne maison, puis il se comprend pas pourquoi il est plus dans sa maison. Ah. Puis moi, je suis obligé de dire, ben non, il y a des travaux sur la rue, puis Olivier peinture en ce moment, parce qu'il y a une locataire dans sa maison. Mais s'il voit qu'il y a une locataire, ça va le détruire, parce qu'il comprendra pas sur le coup. Puis là, vous me dites, arrête de parler de ton père, il va t'écouter. Hey, il y a l'Alzheimer! Non, mais c'est pas c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je suis comme obligé. Est-ce que c'est excusable de mentir à quelqu'un pour lui éviter une douleur?
Oui, ouais, ouais. Je comprends très bien sûr, ce que tu vis.
Mais ça fait 3 ans, j'y mens, tu sais. C'est épouvantable. Fait que ça ajoute à la charge mentale. Puis vous trouvez pas que la culpabilité fait assez de ravages sur nous autres, sur notre estime personnelle? On s'impose ça alors que le jugement des autres nous impose ça de toute façon depuis qu'on est né. Fait que tu sais, oui, c'est vraiment, c'est pernicieux. À quel point je me suis rendu compte que c'était la culpabilité qui intervenait, qui nous faisait agir des fois comme
différemment de ce qu'on veut, comment agir de façon plus correcte, tu sais.
Ouais. Puis
moi, on dirait que je suis pas trop là-dedans.
Non, mais je te connais, Jess, c'est vrai.
Je suis pas trop là-dedans. Ouais. Je suis comme pas peut-être parce que j'essaie d'accepter que des fois je suis imparfaite et chaotique, fait que je suis pas trop en train de me taper sa tête puis de sentir coupable. On dirait que
Mais quand ça affecte les autres, je pense que c'est là que ça t'affecte plus, Frank. Ben comme oui. Par rapport à ton père, par rapport à ce monsieur-là, tout le préposé, puis tout ça. Je peux comprendre ça, mais tu sais.
C'est parce que moi, j'aurais donné l'étiquette tout de suite.
Oui, oui, effectivement, c'est ça. Ça
ouais, mais à un moment donné, t'as pas sa vie.
Non, mais c'est
plus,
vrai.
Mais
oui.
Non, mais t'as pas de cœur.
Mais oui.
T'as pas de culpabilité.
Tu ris des gens Alzheimer, franchement.
C'est dégueulasse.
Oh, merci François.
Merci à vous.
Tu ris des petites personnes, t'es une petite personne.
Merci François, parce que la culpabilité, ça fait partie de bien du monde.
Pensez-y. Libérez-vous de ça.
Et allez chez le psy, c'est toujours une
bonne
chose.
Libérez-vous des libéraux aussi.
Saviez-vous qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire du frère André? C'est grâce à son initiative que l'Oratoire Saint-Joseph a vu le jour à Montréal. Ça nous a donné l'idée de faire un quiz sur les saints.
Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été en compagnie de Michel Charrette, Jessica Barker et François Chénier. Alors toi, tu vas animer un jeu, là, t'es contente?
Je suis toujours contente. Bon. Aujourd'hui, le 9 août, c'est l'anniversaire du frère André, 1845-1937. Est-ce que vous vous souvenez du frère André?
Absolument. C'est sûr, on a parlé de lui à l'école. Je me souviens très bien que c'est lui qui était l'instigateur pour que l'oratoire Saint-Joseph voie le jour. Je pense que c'est un des seuls Québécois qui a été canonisé.
Je pense que oui, c'est un religieux québécois qui faisait des miracles en guérissant des malades. Il a été canonisé et reconnu comme saint par le pape en 2010.
Imagine, c'est loin, c'est quasiment 70 ans après ta mort.
Absolument,
là.
Ça nous a envie de donner, de jouer à un jeu. Alors, on se demande si vous connaissez vos saints.
Ben écoute, essayons.
Essayons. Alors, comme d'habitude, je lis la question jusqu'au bout. Et si vous avez la réponse, vous dites votre nom.
On connaît le principe.
Ben oui, mais ça fait partie du jeu d'expliquer le jeu.
Oui, je sais, mais c'est long.
Qui est ce saint qui donne son nom à la fête nationale des Québécois?
Michel Charrette, Saint-Jean-Baptiste.
Oui, bonne réponse.
On gagnerait pas une.
Je sais, c'est terrible. Jean-Baptiste convertissait des gens au christianisme.
Ah, tu vas pas nous expliquer à chaque fois c'est qui ça?
Baptisant sur les rives du Jourdain. Mais savez-vous pourquoi c'est son nom qui est associé à la fête des Québécois? Non, vous savez pas.
Je veux savoir la question.
Parce que le 24 juin, c'est proche du solstice d'été. Bon. Et le solstice d'été, c'est aussi l'anniversaire de Jean le Baptiste, ouais, qui est à l'opposé de l'anniversaire de Jésus, qui est près de l'équinoxe d'hiver.
Super.
Qui est ça, Jésus?
Question numéro 2. C'est celui qui nous accueille au paradis.
Michel Charrette, Saint-Pierre.
Oui.
Frank, un petit verre de blanc?
La C'est l'apôtre Pierre qui fut crucifié comme martyr, qui possède la clé terrestre et la clé céleste. Il a la possibilité d'ouvrir, de fermer les portes du paradis.
Bon.
Saint-Pierre est aussi devenu un nom de famille très répandu au Québec.
Ouais.
Ingrid Saint-Pierre, Kim Saint-Pierre et une animatrice ici à Rouge, Julie Saint-Pierre, qu'on va retrouver très bientôt à Rouge au travail.
Super.
OK. Alors, qui est le saint patron des objets perdus?
Michel Charette, Saint-Antoine de Padoue.
Savez-vous pourquoi? C'est vraiment... C'est ça. Pour ça, je joue plus. Là.
Non, ben
tu l'animeras le quiz jeudi.
C'est pas une question que vous n'êtes pas rapide. Vous êtes carrément moins intelligent que moi, c'est tout.
Non, non, juste spécifier que la culture, c'est pas l'intelligence.
Bon, j'adore.
C'est vrai.
De toute façon, t'as dit que tu trouvais pas Michel intelligent.
Non, c'est pas ça que j'ai dit.
C'est quoi que t'as dit?
J'ai dit, c'est pas son intelligence qui m'a séduit. Puis là, j'ai enchaîné sur d'autres choses. On écoutera le tape en 2028.
Parfait. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi on invoque Saint-Antoine de Padoue quand on cherche quelque chose? L'histoire raconte qu'un jeune novice avait volé à Saint-Antoine de Padoue son livre de psaumes, ce qui lui aurait rapporté quelques jours plus tard, pris de remords. C'est pour ça qu'on pense à lui quand on perd quelque chose, pour que ça nous revienne. Est-ce que vous faites ça, vous?
Non.
Saint-Antoine de Padoue, aide-moi.
Quand je perds quelque chose, je m'en achète un autre.
Moi aussi, je collecte les assurances.
OK. Alors, une autre question. Oui. Elle est située entre Drolet et Saint-Vallier.
François, Saint-Dominique.
Non, c'est Saint-Denis!
Hey, attends, j'ai un doigt de...
Non, t'auras pas le point, au moins.
Hey, tu veux aller ses bijoux comme MC Solar, je crois.
Oui,
oui. T'habiller comme un rapper.
Hey, oui, oui. MC Solar, les références à Michel Charette, le rap en noir et blanc.
Alors, la rue Saint-Denis a été nommée ainsi en l'honneur de Denis Vigier, qui était un Montréalais notable et le propriétaire d'une terre qui longe le côté est de la rue.
Vous savez que Denis Coderre pense que c'est à cause de lui.
Ben oui, je sais. T'as tellement raison.
Ouais. Denis Martinez.
Là, attention, c'est la dernière question. Et là, ce saint, qui n'en est pas vraiment un, est joué au théâtre par notre invité de la semaine.
Ah, ben, c'est François.
Vas-y.
Saint-Faurien. Voilà. C'est excellent.
Alors.
Hey, c'est le fun. Il joue dedans, mais il a allumé 4 secondes.
Ben, oui.
Puis là, moi, je réponds pas en plus parce que
ben
je sais, je fais.
Il me laisse sa palette.
Bon, il reste que le pointage final est de 3 à 1.
Merci beaucoup. Ben, c'est Michel Charette. Une toune de victoire ou quelque chose.
We are the champions.
C'est le fun de suivre, Marc-Antoine.
Ben, justement, Marc-Antoine est en préparation des plus gros hits partout au Québec avec le studio dès 18h. On lui parle dans les prochaines minutes. Et François, commence à penser à ton moment préféré du show.
Oui.
Parce qu'on va faire le tour de table tout de suite après ça. Restez là! Salut Marc-Antoine Bertillon!
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien toi-même.
Là, on va essayer d'ajouter un peu de soleil, puis loin de moi l'idée de vous faire réaliser que l'été achève. T'sais, on est quand même rendu le 9 août, mais on va être dans une espèce de bilan de toune d'été. On en a tellement cette année 2022, puis d'ailleurs, on en a 3, selon moi, qui vont se retrouver dans le studio au cours des prochaines minutes.
Ben écoute, on nous a fait jouer tout l'été, on doit les connaître. Ben, l'ISO, le Dua Lipa, puis les deux frères.
Dua Lipa, il n'y a pas de nom. Il y a les os, il y a Harry Styles. Puis il y a une nouvelle également de Pitbull là, qu'on va pouvoir vous jouer. Lui d'ailleurs qui va être au Centre Bell ce vendredi. Yeah.
Pitbull, la toune country?
Exactement! Tu l'aimes, hein?
Ouais. Oui, je l'aime bien.
Bon, Oshiaga, il y a eu un moment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans un festival avec une chanson qui, à un moment donné, se met à mouiller bien, bien fort. Juste pendant une toune, c'est exactement ce que j'ai vécu. Puis honnêtement, c'était assez extraordinaire. On va pouvoir vous raconter ça avec Higher Love de Kygo. Et également Madonna qui a décidé de se mixer avec notre amie Beyoncé, tu sais, la chanson Break My Soul. Hier, je vous en avais parlé un peu. Et là, ça donne ceci. Jilly from Philly, I love you, boo. Don't just stand there, get into it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. Alors, un beau mélange de Vogue et de Break My Soul. Pour vrai, c'est un résultat incroyable. On va essayer de vous faire un extrait un peu plus long qu'on va vous présenter vers à peu près 18 ans.
C'est bon.
Ça va, Marc-André?
Un vrai chef d'orchestre.
Hey, t'es fin avec nous autres, mon vieux, là, c'est effrayant. Il nous dit 3 secondes avant. C'est là! Tout pour nous mettre sur une nerf.
Vas-y.
C'est à moi, hein?
Oui. Okay.
Bon, parfait. Écoutez, 17h48, c'est déjà la fin. Alors, depuis le début de l'été, Frank, à chaque fin de show, on a nos moments préférés.
Oui.
Donc, écoute, on te passe la poque. Toi, t'as-tu un moment préféré aujourd'hui?
Oui, oui. J'ai bien aimé quand vous avez rappelé au début de l'émission. Je ne savais pas qu'on rappelait l'émission d'hier. Vous avez fait un rappel comme quoi j'aimais les chèvres. Fait que les auditeurs qui me trouvaient weird, ça fait juste renforcer le propos.
Mais t'aimes les sauts de chèvres.
J'aime les sauts de chèvres, voilà. Tout ça. Mais pour vrai, l'appel du gars de Saint-Louis-des-A, j'ai bien aimé ça. Ça, là.
Ça brune de cacane de crème fouettée.
Ah oui, c'est impressionnant.
J'espère qu'il lâchera pas sa job de jour pour se lancer là-dedans en plein.
Non. Michel, ton moment préféré.
Moi, c'est encore mon moment d'hier avec Monique Néron.
Mais j'ai c'est hier.
Je sais, mais je suis encore dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ça m'a touché. Ça va me suivre pour le restant de ma vie.
Oui.
Mais j'ai pas eu ça quand François il a applaudi d'une main.
Hey, effectivement, il faut qu'on fasse une story d'ailleurs
c'est
pour
fait,
les auditeurs.
Oui, oui, oui. Mais vous allez voir ça sur nos réseaux sociaux. C'est assez spectaculaire.
C'est impressionnant.
C'était son audition pour le Cirque du Soleil. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas rappelé.
Non.
Ils ont failli prendre.
Ils ont failli. À ça pour aller à Macao.
Son ticket number.
Toi, ma belle Jess.
Moi, c'est quand j'ai appris que vous aviez passé la crise du verglas en mangeant de la fondue chinoise ensemble. J'adore.
C'est vrai, en plus.
Écoute, j'adore l'image. Parce que vous êtes fait comme un petit bonheur.
À chaque soir, on se dit, OK, à soir, c'est chez vous. OK, parfait, je m'en viens. J'allais chez eux.
Fondue chinoise.
Moi, j'avais-tu une blonde dans ce temps-là?
Ben oui, t'étais sur Brébeuf.
Ouais, j'avais une blonde.
Ouais.
Ça a bien fini. Hein,
ouais, c'est ça.
Puis Frank, évidemment, il était avec Gatou. Fait qu'on s'échangeait ça. Des fois, c'était chez nous, chez eux. Puis, tu sais, à un moment donné, la fondue chinoise, c'est bien le fun. Mais on avait hâte que ça revienne. Là.
Merci. Soyez là demain en direct de Gatineau. Lise Dion sera notre invitée. Notre collaboratrice Josiane Aubuchon vient nous présenter sa jasette avec le père de Léane Labrèche d'Or, nul autre que Marc Labrèche.
Yeah!
On donne 2000 $ à un organisme avec Jean-Marie Lapointe.
Saint-Antoine de Padoue s'en vient avec les plus gros hits. Merci d'avoir été là, tout le monde. On prend ça demain. Merci à notre producteur Jonathan Simoneau, scripteur Félix Turcotte, Jean-François Hébert et Marc-Antoine Bertillon à la mise en onde. Merci tout le monde d'être là chaque soir pour nous accompagner. À demain.